Nous lisons le psaume 137. Le psaume 137. Il y a deux semaines, nous avions parlé d'un sujet intitulé « N'oublie pas Jérusalem ». Si je t'oublie, Jérusalem, que Dieu aussi m'oublie. Donc nous relisons en introduction le psaume donc 137 qui était notre passage principal. Il est écrit ceci: sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Et on avait expliqué que le peuple juif était en captivité à Babylone. Ils ont été déportés, emmenés par Nebuchadnezzar à Babylone. Et là, c'est une citation qui montre ce qu'ils vivaient là-bas. Donc, à un certain moment, les gens du pays, maîtres de l'époque, demandez à ceux qui chantent des chants, des cantiques de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Sion, c'est Israël. Et les Juifs répondaient, mais comment pouvons-nous chanter les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Il faut savoir que pour les Juifs, le seul lieu d'adoration, c'était le temple à Jérusalem. Et là, on leur demandait de chanter à Babylone. Et ils ont refusé le compromis. Même si Babylone devait être une ville plus grande, peut-être plus belle et plus riche que Jérusalem, ils ont dit, nous, on adore Dieu que dans le temple de l'Éternel qui est à Jérusalem. On ne peut pas chanter les cantiques de Sion partout. Et ils disaient, nous ne voulons pas oublier Jérusalem. Parce que si on oublie Jérusalem, on va se dire, bon, c'est pas grave, chantons quand même ici à Babylone. Ils ont dit non, c'est Jérusalem qu'on nous a donné comme ville d'adoration, ville représentant Dieu. Et on avait expliqué que aujourd'hui, le christianisme visible, nous voulons dire, a beaucoup changé, s'est beaucoup dégradé. Les gens font de l'adaptation avec le monde. On vend les choses, on paye pour entrer dans des concerts, pour prier, assister à des séminaires, on paye. On commence à fêter la Saint-Valentin dans les églises pour s'adapter, pour essayer d'attirer les gens. On commence à faire du marketing. Les méthodes, on vend de l'huile, on vend des bouts de tissu sur lesquels il y aurait un certain pouvoir. Dans les églises évangéliques, le christianisme s'est dégradé parce que les gens ont oublié. Vous savez, même Paul, quand il mourait, il disait à Timothée, « Souviens-toi de Jésus. » C'est une façon de lui dire, « N'oublie pas Jésus, Timothée. » Souviens-toi de Jésus ressuscité d'entre les morts. N'oublie pas, Timothée, que Jésus est vivant, il est ressuscité, c'est le véritable Dieu. Toute ta vie, n'oublie pas cela. Et là, nous lisons les Juifs qui disent, nous ne voulons pas oublier Jérusalem. Et on avait expliqué qu'il ne fallait pas oublier la vérité. Il ne fallait pas oublier que nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus. Il ne fallait pas oublier que nous n'avons qu'une seule parole, qu'une seule autorité sur terre, c'est la Bible. Il ne fallait pas oublier que Dieu attend que nous soyons à son image. Il ne fallait pas oublier qu'il est dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne fallait pas oublier que le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Toutes ces vérités-là, il ne faut jamais les oublier. Parce que c'est ça qui permettra que Dieu nous y ramène. Parce que si nous oublions ces vérités, comment Dieu va nous y ramener? Aujourd'hui, nous pleurons pour revenir à ces vérités. On dit, Seigneur, on veut revenir à ces vérités. Nous voulons voir des jeunes se convertir, des enfants se convertir. Il ne faut pas qu'on oublie la Pentecôte. Quand Pierre a prêché, des hommes se sont convertis, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Nous ne pouvons pas oublier la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas oublier que notre Dieu est un Dieu des miracles. Nous ne pouvons pas oublier que notre Dieu donne des dons spirituels. Nous ne pouvons pas oublier tout ça. Parce que c'est inscrit dans sa parole. Que personne ne nous fasse oublier cela. Voilà quel a été notre souci il y a 2 semaines. Restons dans la vérité, même si nous ne vivons pas tout ça. Mais n'oublions pas, revenons à cela. Revenons à Dieu pour dire, Seigneur, ce que nous voulons vivre, c'est ce qui est écrit dans la parole. Aujourd'hui, nous allons parler du temps de la délivrance. Parce que nous sommes comme dans l'attente d'un temps de délivrance. Parce que ce que nous vivons ne correspond pas à la volonté de Dieu. Le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais ce que l'Église vit aujourd'hui, ce n'est pas cela. L'Église vit comme une sorte de tortue qui se cache dans sa carapace. L'évangélisation a baissé parce que les gens ont quitté les véritables objectifs de Dieu. Quand vous parlez aux chrétiens aujourd'hui, vous pouvez parler pendant 1 heure, vous allez parler que de leurs problèmes. Que de leurs problèmes. Mais quand vous lisez les Écritures, vous voyez les chrétiens parler, ils parlaient de comment sauver les autres, comment plaire à Dieu, comment glorifier Dieu. Aujourd'hui, le chrétien pense à lui. Comment acheter la nouvelle voiture? Comment acheter une maison? Comment se marier? Comment avoir des enfants? C'est toujours lui qui est au centre. Mais la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est ça le commandement. Mais quand on aime quelqu'un, donc on aime ce que lui aussi l'aime, ce que Dieu aime, c'est que tous les humains soient sauvés, ce que Dieu aime, c'est que sa gloire soit reconnue sur la terre. Aujourd'hui, nous vivons comme des animaux traqués. Non, ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on vive clairement. Comme Jésus, quand on est venu l'arrêter la nuit, il a dit, mais vous venez m'arrêter la nuit. Mais moi, je prêchais clairement devant vous tous dans les synagogues. Je prêchais ouvertement. Je n'avais peur de personne. Et vous, vous venez m'arrêter la nuit. Nous voulons le retour à Jérusalem. Le retour à ce que Dieu a inscrit dans sa parole. Le fait qu'on ait foi en Dieu, nous voulons avoir foi en Dieu, nous attendre à lui, dépendre de lui. Aujourd'hui, les chrétiens font tout par calcul. Et si le calcul ne marche pas, il s'arrête. Il faut qu'avant qu'il fasse un pas, il faut déjà tout calculer à l'avance. Mais le chrétien d'autrefois, écoutez la voix du Saint-Esprit. Et ils suivaient. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à 2 reprises, Paul est bloqué par le Saint-Esprit. Il veut faire quelque chose, il dit, mais le Saint-Esprit m'en empêcha. Et une fois, il fait un songe, les gens de Macédoine l'appellent, il comprend que le Saint-Esprit l'envoie à Macédoine. Et il va. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Pour aller quelque part, il faut être invité par une église. Mais les Paul, quand ils allaient quelque part, c'est parce que Dieu les envoyait. Et s'il fallait se réunir avec 3 personnes seulement au bord d'une rivière, il allait le faire et prêcher l'évangile à ces 3 personnes-là parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'avait pas besoin qu'on l'invite par une grande assemblée. Il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et nous devons revenir à tout cela, bien-aimés. Les gens sont étonnés, mais pasteur, mais tu te retrouves ici. Quelle église t'a invité? Non, aucune église ne m'a invité, c'est le Saint-Esprit. Parce que les gens sont liés à des systèmes qui se sont installés et qui enlèvent la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on n'oublie pas ce qui est inscrit dans la parole. La véritable parole de Dieu, la vraie vérité, c'est ce qu'on doit serrer en nous. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Et dans cette attente-là, je parle à ceux qui attendent une telle délivrance. Je dis qu'il y a un temps d'attente. Ce temps de délivrance-là, c'est aussi un temps de préparation. Après, ce que je vais dire peut concerner des délivrances particulières, hein, des cas particuliers. Peut-être que tu veux être délivré d'un péché, tu veux être délivré d'un souci d'enfantement ou d'un souci de mariage ou d'un souci d'achat ou financier. Mais il y a un temps de délivrance qui correspond au temps de la préparation de Dieu. Dieu, avant d'agir, il nous prépare toujours. Vous savez, aujourd'hui, on prêche l'évangile instantané où on veut tout avoir comme le café instantané. Mais lorsque nous lisons les Écritures, Dieu, avant de manifester sa gloire, il prépare d'abord les gens. Parce qu'il connaît l'homme. L'homme a un problème avec la gloire de Dieu. Dès que la gloire de Dieu vient sur lui, il se détourne et il veut prendre la gloire de Dieu et mettre en son compte. Il connaît l'homme. Il sait que dès que l'homme a la gloire de Dieu, il pense beaucoup plus à s'amuser plutôt qu'à chercher Dieu. Et c'est pourquoi Dieu doit préparer d'abord l'homme à la délivrance. Il doit préparer l'homme pour sa gloire. Et nous qui prions pour ce retour à Jérusalem, nous qui prions, nous qui sommes dans l'attente de cette délivrance, nous devons saisir aussi qu'il y a un temps pour cette délivrance qui correspond au temps de notre préparation. Si on ne saisit pas cela, on ne va pas se préparer. Et en ne se préparant pas, cette gloire ne viendra pas non plus. Cette délivrance ne viendra pas non plus. Ou si elle vient quand même, puisque Dieu est souverain, ben, c'est nous qui perdrons. Parce qu'on s'asservira comme le diable s'est servi de la gloire qu'il avait pour se rebeller contre Dieu. Adam s'est servi de l'autorité que Dieu lui avait concédée. Dieu lui avait donné pour se rebeller aussi contre lui. Nous, on ne veut pas être de ceux-là qui allons nous servir de la gloire de Dieu pour se mettre encore contre Dieu. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui allons nous servir de la gloire de Dieu pour faire les choses du monde. Nous voulons rester fidèles à Dieu. Alors nous acceptons le temps que la délivrance prend. Nous acceptons parce que nous croyons que c'est un temps de préparation. C'est notre préparation que Dieu est en train de faire. On a vu les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Bien qu'ils fussent préparés, hein, bien qu'on les a préparés, mais ils ont quand même contesté, ils ont créé des difficultés à Dieu dans le désert. Alors imaginez que Dieu ne les ayez pas préparés, ça allait être quoi? Dieu veut nous préparer. Tu attends quelque chose de lui, accepte aussi le temps de la préparation. Nous attendons quelque chose. Moi, j'attends quelque chose. J'attends de voir que le chrétien n'ait plus peur d'être chrétien. J'attends de voir que le chrétien n'ait plus honte d'être chrétien. J'attends de voir des gens qui décident pour Dieu de devenir pauvres. On n'en voit plus. Tout le monde prie pour devenir riche. On attend de voir des gens sacrifier leur jeunesse pour Dieu. On attend de voir les morts ressuscités et même les fous délivrés par Jésus. Et ça viendra parce que Dieu, il est écrit, Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais entre-temps, nous voulons être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous corrige, qui nous purifie, qui nous forme, qui nous prépare. Nous voulons accepter ce temps de préparation. c'est important d'accepter le temps de préparation. Vous savez, nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y a des gens qui ont reçu des promesses de Dieu et ils ont accepté d'être préparés et ils ont vu la gloire de Dieu. Nous allons lire Genèse au chapitre 40. Genèse chapitre 40. Normalement, on devrait lire d'autres chapitres précédant le chapitre 40, mais il y a une question de temps. Nous allons expliquer ce qui précède le chapitre 40. Il s'agit de Joseph. Je pense que la plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph a reçu des songes, des visions de Dieu qui lui montraient qu'il aurait la suprématie sur ses frères, ses parents. Mais par jalousie, ses frères ont voulu le tuer, mais ensuite ils se sont ravisés. Ils ont préféré le vendre comme esclave. Étant vendu comme esclave, il finit par servir un homme appelé Potiphar en Égypte. Et cet homme établit Joseph sur tous ses biens comme gérant. Mais malheureusement, la femme de cet homme a voulu que Joseph parte avec elle. Et Joseph a dit, non, je ne veux pas désobéir à mon Dieu. Joseph savait qu'il prenait un risque. Mais il a préféré rester honnête. Il n'a pas oublié son Dieu. Nous revenons toujours au psaume 137. Joseph, malgré le fait qu'il était à des centaines de kilomètres loin de Jérusalem, loin plutôt de son peuple, il n'a pas oublié les lois de Dieu de son peuple. Il a dit, non, je ne peux pas sortir avec toi parce que tu es la femme de mon maître. Et cette femme a plutôt accusé Joseph d'avoir voulu la violenter. Et c'est là que Joseph se retrouve en prison. Voyez, les malheurs sont en train de suivre Joseph. Pourtant, il a suivi. Pourtant, il a eu des songes. Il a eu des visions. Mais il n'a pas voulu forcer son avenir. Joseph aurait pu empoisonner son maître et prendre la place de son maître puisque sa femme voulait de lui. La femme de son maître voulait de lui. Mais il n'a pas voulu forcer. Pourquoi forcer, bien-aimé? Laissons le temps de préparation se faire. Il ne faut pas forcer. Laissons le temps de délivrance arriver. L'ennemi va vouloir nous pousser à forcer notre destin. À dire, mais vas-y par la chair. Mais l'église, vous manquez d'argent. Vendez les CD. Faites ceci. Vendez telle chose. Comme dans certaines assemblées, le culte finit. Derrière, il y a un stand d'aloe vera, des produits d'aloe vera pour vendre. Non, c'est pour financer la vie du pasteur, mais bien-aimé, Jésus ne veut pas de marchands dans le temple. Mais tout ça, quand vous expliquez ça aux chrétiens, ils disent, mais oui, il y a un verset qu'ils utilisent tous, Ecclésiaste 10, 19, l'argent répond à tout. Mais ce verset-là ne veut pas dire que c'est ça la vision de Dieu, que l'argent répond à tout. Ce verset-là, Ecclésiaste, c'est un livre de conseils qui nous explique les choses de la terre, comment ça se passe. Ce n'est pas, il ne faut pas prendre ce verset-là comme si c'était Dieu qui dit « l'argent répond à tout ». Mais Dieu est en train de révéler la vie des hommes dans l'Ecclésiaste. Chez les humains, quand on a l'argent, on a tout ce qu'on veut. C'est ce que Dieu veut dire dans ce verset-là. Il ne veut pas dire que l'argent est la réponse. Ça voudrait dire que l'argent a pris sa place. Non. Et tous ces chrétiens-là utilisent ce verset pour dire « mais s'il n'y a pas l'argent, comment on va faire les choses ?» Mais Dieu qui nous envoie, il a prévu de nous donner aussi les moyens. Nous devons compter sur lui et non pas transformer son église en un marché. Joseph n'a pas oublié la loi de son Dieu et il a préféré ne pas forcer son destin. Il est entré en prison. Mais nous tous, bien-aimés, au début, nous supportons les souffrances. Nous acceptons la préparation. Mais la Bible veut qu'on l'accepte toujours. Qu'on continue à accepter cette souffrance. Ça peut durer. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas... Vous savez, Joseph, il pouvait expliquer les visions des autres, mais lui-même ne savait pas quand est-ce qu'il allait être délivré. Mais il suivait son Dieu. Mais quand on commence à fixer de temps, nous revenons toujours au calcul. L'année prochaine, je quitterai mon brisement. En réalité, on ne le dit pas comme ça, mais soi-même, on décide de sortir du chemin de Dieu en décidant l'année prochaine, je ferai ceci. Dans 6 mois, je ferai cela parce qu'on veut être soulagé. Je suis fatigué. Mais c'est Dieu qui doit décider, ce n'est pas toi de décider. Joseph, je crois que quand il a été pris par Potiphar, il pouvait dire, mais ça va, hein, je suis bien là. Mais non, Joseph a dit, je ne suis pas de ce pays-là. Je dois toujours m'attacher à mon Dieu. Ce qui fait qu'en restant attaché à son Dieu, Dieu l'a préservé de prendre la femme d'autrui. Et Joseph se retrouve en prison. Voilà le texte que nous allons lire. On est arrivé à cette étape-là où Joseph est en prison. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. Ce cèpe avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. » Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Voilà la base de notre prédication. C'est le verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Joseph vit galère sur galère et il arrive en prison. Mais à chaque fois dans ces galères, Dieu assiste quand même Joseph. Il est là présent pour lui éviter le pire. Comme quand on a voulu le tuer, il lui a évité le pire. Il a suscité Judas pour dire, vendons Pluton-le. On a amené en Égypte comme esclave. Dieu a évité le pire. Il a permis qu'il travaille chez Potiphar, un homme bien, qui s'est occupé de lui comme il faut, qui a fait confiance en Joseph. Et là, il est en prison. Dieu est toujours là pour éviter le pire. Il permet que Joseph soit bien pris en charge par le chef de la prison qui collabore avec Joseph. Et en prison, deux personnes font un songe. Le premier, c'était le chef des échansons, ceux qui servaient le vin au roi. Et le deuxième, c'était le chef des panetiers, ceux qui s'occupaient du pain. Et le chef des échansons fait le songe, demande l'explication à Joseph. Joseph donne l'explication selon laquelle cet homme, après 3 jours, va redevenir encore le chef des échansons. Sa vie va, il va retrouver sa vie d'avant. Et le chef des panetiers, voyant que l'autre a reçu une bonne explication, lui aussi, il demande l'explication, mais son explication à lui était défavorable. On lui dit que dans 3 jours, il mourra. Et Joseph en profite pour dire au chef des échansons, tu vois, grâce à moi, tu as reçu la bonne explication. Alors quand tu sortiras de prison, ne m'oublie pas. Va voir Pharaon et parle-lui de moi afin qu'il me sorte de la prison. Je pense que quand le 3e jour, cet homme est sorti, Joseph s'est dit, ah, voilà ma délivrance. Grâce à moi, cet homme a connu la vérité. Grâce à moi, cet homme est libéré en quelque sorte. Je suis libéré. Je crois que Joseph était dans la joie. Mais quand j'ai lu ce texte, le mot du verset 23 m'a choqué. Le chef il l'oublia. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia, bien-aimé. Avec un tel miracle, cet homme a quand même oublié Joseph. Qui pouvait croire à ça? Eh bien, nous sommes tous comme des Joseph. On se dit, Dieu m'a donné l'intelligence. J'ai eu un bon diplôme. Pourquoi je ne trouve pas le travail? Je croyais qu'en ayant le diplôme, ben, tout me serait ouvert, mais ça ne s'ouvre pas. On se dit toujours, mais il manque juste ça pour que tout se passe bien pour moi. Et ça semble traîner. Joseph, pour lui, c'était clair. Dès que le chef des échansons va sortir, puisque c'est grâce à moi qu'il a eu l'explication, il va voir le pharaon et je vais être libéré. Mais le texte est clair. Il oublia Joseph. Mais pour nous, c'est que c'est lui qui a oublié. Mais en réalité, c'est qui a fait oublier le chef des échansons? C'est Dieu. Puisque c'est Dieu qui a donné l'explication. Il pouvait aussi faire un songe encore au chef des échansons pour lui dire, ben, pense à Joseph. Mais il ne l'a pas fait. Il a oublié Joseph. Qui n'a pas dit que Dieu l'a oublié au milieu de nous? On se dit, mais c'est évident qu'il doit agir. Parce que là, Joseph donne l'explication. Il se dit, mais qui m'a donné l'explication? C'est Dieu. Puisque Dieu m'a donné l'explication. Donc forcément, Dieu s'est préparé à agir à travers le chef des échansons. Puis, oubli total. Il se dit, mais comment? Il y a même certains frères qui disent, mais comment je reçois des prédications, mais le pasteur ne me choisit pas encore pour prêcher. Tu reçois 1000 prédications, mais après, il n'y a plus rien. Tu te dis, ah bon, le pasteur est jaloux, mais le pasteur n'est même pas au courant que toi, tu as reçu 1000 prédications. On oublia Joseph. Et je dis, mais oh, pendant le culte, le chef de la chorale n'entend pas ma belle voix qui sort là du public. Non, Dieu a oublié ta voix. Dieu a oublié ton talent. Il l'a oublié. Comme il a oublié Joseph en prison. Mais c'est faux, Dieu n'oublie pas. C'est le temps de préparation. Le temps de la délivrance, c'est le temps de la préparation. Et moi, je croyais qu'il oubliait peut-être 3 mois, mais non, c'est écrit au chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Donc pendant 2 ans, Joseph est resté encore en prison. Après cet événement-là où tout le monde pouvait penser que ça y est, Joseph va sortir, puisque c'est le chef des gestions du roi quand même. Il allait un jour ou l'autre se souvenir comment il s'est retrouvé sauvé. Mais non, il oublia. 2 ans encore, Joseph est resté là. Imaginez Joseph. Mais dire, mais c'est pas possible. Dieu m'a donné le don de vision. Est-ce que c'était pas pour le don d'explication? Est-ce que c'était pas pour sortir de la prison? Maintenant, je donne l'explication et je ne sors toujours pas. Ça fait longtemps quand même que je galère. Il devait se dire, mais qu'est-ce que Dieu attend encore pour me sortir? Mais je suis correct avec lui. Et beaucoup disent, je suis correct. Mais est-ce que tu as posé la question à Dieu lui-même à propos de toi? Quand tu dis que tu es correct, c'est toi qui le dis. Il faut poser la question à Dieu lui-même. David, dans le psaume 139, disait, sonde-moi, ô Dieu, éprouve mon cœur. Il demandait à Dieu de le sonder. Il ne se prétendait pas lui-même honnête. Dieu, sonde-moi, éprouve-moi. Et nous, on dit, mais je fais ce qu'il faut, je ne comprends pas pourquoi la chose ne change pas. Je fais ce qu'il faut, mais je ne comprends pas pourquoi mon mari ne se convertit pas. Je fais ce qu'il faut, ma femme ne se convertit pas. Pourquoi Dieu attend? Dieu sait bien que le jour où tu auras ce que tu demandes là, quelque chose va se passer dans ta vie. Mais toi, tu n'en as pas conscience. Mais lui, Dieu sait. Il y a un temps de préparation. Joseph a été oublié. Nous aussi, on semble être oubliés. On se dit, mais ça fait quand même des années qu'on prie pour le réveil en Normandie. Ça fait des années qu'on prie pour la France. On est comme oubliés. Mais on n'est pas oublié. C'est le temps de la préparation, le temps de la délivrance. On n'est pas oublié. Ça fait des années qu'on prie pour la conversion des membres de nos familles. Ce n'est pas oublié. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la préparation. Laissons Dieu faire. Gardons la foi. Ça veut dire cette méthode-là d'oubli, on la voit partout dans la Bible. Vous savez, quand Moïse faisait un miracle, il se disait, là, avec ce miracle-là, Pharaon nous lâche, on sort. Avec ce miracle-là, Pharaon ne peut pas tenir, il va nous laisser partir. Mais dès qu'il faisait le miracle, Pharaon disait, non, non, vous ne partez pas. Donc Moïse ne comprenait pas, il fallait encore un autre miracle. C'est la même chose, bien-aimé. Nous, on se dit, bon, ça y est, cette fois-ci, quand je lui ai parlé de l'évangile, il a souri. Donc, il est proche de la conversion. Le lendemain, ça revient encore à la case départ. Ah, mais je croyais, oui, Joseph croyait que c'était le moment. Mais Jésus nous dit dans Actes des Apôtres que les temps sont fixés par Dieu lui-même. Nous, nous devons croire. Pourquoi être quelqu'un comme Joseph être préparé en quoi encore? Vous savez, si on lit son histoire humainement, on va dire, mais Joseph a déjà été préparé. Il a déjà reçu les visions, il connaissait son avenir. Il a été rejeté par son frère. Donc, il a déjà expérimenté l'adversité. Il a été vendu comme esclave. Il a expérimenté l'humilité. Il a été injustement traité en tenant ferme face à une femme. Donc, il a expérimenté les choses de Dieu. Il a expérimenté la sainteté. Et maintenant, il se retrouve en prison. Il a expérimenté la souffrance. Qu'est-ce que Dieu voulait encore préparer chez Joseph? Et beaucoup d'entre nous, parfois, on croit qu'on est prêt. On est prêt à chanter, on est prêt à prêcher, on est prêt à se marier, on est prêt à avoir des enfants. On croit toujours qu'on est prêt. Et quand Dieu veut préparer, quand Dieu veut nous délivrer et qu'il met du temps pour la délivrance, ah, ça devient un problème. C'est comme si Dieu nous a oubliés. On croit toujours qu'on est prêt. On pense qu'on est prêt à voyager dans le monde entier pour faire l'œuvre de Dieu. On croit toujours être prêt. Et on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on est prêt, Dieu se prive d'un serviteur de ce niveau-là. Mais Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Si Dieu veut nous sauver, nous, c'est lui, c'est nous qui avons besoin de lui. Et il sait pourquoi la délivrance n'est pas encore manifeste. C'est parce que la préparation n'est pas encore finie. C'est ça la réalité, bien-aimés. Ne prenons pas les humains comme étant nos opposants. C'est Dieu qui est notre opposant. C'est lui qui veut nous préparer. C'est lui qui s'oppose parce qu'il veut faire de nous des véritables serviteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant la préparation? On doit agrandir notre foi en Dieu. On doit laisser grandir notre soumission à Dieu. Beaucoup de gens se disent chrétiens, avoir la foi. Mais c'est parce qu'on est dans cette salle. Hein? Mais devant les vrais événements, vous allez voir s'il y a vraiment foi ou pas. Hein? Quand le peuple est sorti d'Égypte, il est sorti avec foi. Mais quand il était face à la mer Rouge, la foi a disparu. Hein? Dieu veut nous faire augmenter la foi pendant le temps d'attente. Dieu veut nous faire augmenter la soumission à lui, la dépendance à lui. Vous imaginez que Joseph allait devenir quoi après tous ces événements? Il allait devenir premier ministre. Premier ministre de quel pays? L'Égypte, l'un des plus grands pays de l'époque. Et premier ministre, à quel moment? Au moment où la famine allait être sur toute la terre et qu'il allait avoir la richesse qu'en Égypte. Donc Joseph devenait en quelque sorte le prince du monde entier, puisque tout le monde entier, les gens venaient en Égypte pour aller recueillir du blé. Donc Joseph devenait le chef de tout ça. Vous pensez que devenir chef de tout ça, c'est facile? Être président, être premier ministre, c'est facile. Il faut être préparé, bien-aimé. Quand Dieu nous prépare, on se dit, mais il veut nous montrer encore quoi? Mais oui, mais il sait quel poste il te prépare. Il sait quel avenir il a pour toi. Et il sait que si tu n'es pas préparé, tu tomberas. Il sait que si tu n'es pas préparé, tu géreras mal les choses. Pendant la préparation, nous faisons quoi, bien-aimés? Nous laissons tout compromis de côté. Dieu veut nous enlever tout compromis. Vous savez, si tu ne sais pas garder le volant droit à 30 km/h, tu n'arrives pas à garder le volant droit. Est-ce qu'on va te laisser conduire à 130 km/h? Ah non, bien-aimé. Parce que quand on est à 30 km/h, les petits écarts qu'on fait là, ça ne nous sort pas de la route. Hein? On revient vite. Hein? Mais fais ces écarts-là à 130 km/h, tu cognes. Tu es déjà dehors. Dieu sait que les petits écarts qu'on fait maintenant, c'est des écarts qui vont se révéler être dangereux, fatal pour nous à 130 km/h. Il dit, apprends encore à 30 à rester droit. Apprends à mettre le compromis de côté. Et Satan va toujours venir pour te dire, mais un peu de compromis, ça ne fait pas de mal, quoi. Un tout petit peu de compromis. C'est ainsi que on voit des églises où le jour de la Saint-Valentin, c'est en rouge. Donc, je ne dis pas que les gens qui ont mis le rouge aujourd'hui, c'est pour la Saint-Valentin. Mais bon, donc, les églises, jour de la Saint-Valentin, vous savez, c'est quelle émission là où on pose les questions aux maris, aux femmes, les amours, hein? Voilà. Quel est l'orteil le plus long du mari, des choses comme ça. Donc, un bien-aimé, un jour, il débarque dans son assemblée. Mais il voit les amours devant. C'était le pasteur, le couple pastoral. Et la femme du pasteur, donc on devait demander. Donc, c'était les amours. Oh non, il faut essayer de faire revivre l'église. Ah, bien-aimé. Par la Saint-Valentin, ce sont ces compromis-là. Les gens sont épuisés de chercher Dieu dans la vérité. Ils veulent faire des petits compromis pour aller plus vite. Il n'y a pas la joie dans l'église. On crée, on commence à fêter les anniversaires dans les églises. Bon, l'anniversaire va créer un peu de punch dans l'église. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui doit créer la joie du Seigneur est ma force, la Bible dit. On dit maintenant anniversaire, on proclame et on chante même. Chantons pour Dieu. Au dimanche prochain, 49e anniversaire du pasteur. Ah! Et dans la salle de culte. Non, ça va créer un peu l'ambiance. Bon, les gens sont un peu fatigués. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la force, bien-aimé. Tout ça, c'est le diable qui dit, mais un tout petit peu de compromis, ça crée la vie. Ils appellent ça du piment. Un peu de piment, mais c'est du compromis. Ce n'est pas la vérité. Et Dieu sait que s'il déverse son réveil maintenant, ça va être utilisé pour les humains, pour la gloire des humains. Ça ne va pas être utilisé pour sa gloire. Ces petits compromis-là. Vous savez, Moïse, quand il voulait sortir les enfants d'Égypte, d'Israël d'Égypte, le pharaon lui a dit, Moïse, bon, d'accord. Vous sortez, non, adorez Dieu ici, dans le pays. J'accepte que vous adoriez votre Dieu, mais restez en Égypte. Moïse a dit non, notre Dieu nous a dit de l'adorer à l'extérieur. C'est comme ceux-là de Babylone. On leur a demandé de chanter des cantiques à Babylone. Ils ont dit non, nos cantiques, nous les chantons à Jérusalem. Ils ont pris leur harpe, ils ont suspendu sur les saules. Ils ont dit on ne touche plus à ça. Jusqu'à notre retour. Et Moïse a dit, non, on adore Dieu à l'extérieur. Mais pourtant, Pharaon s'était calmé. Il dit, bon, je me calme. Adorez Dieu, mais ici. Et c'est ce qu'on nous demande comme compromis. Faisons les choses, mais comme les gens du monde. Comme les gens du monde. Il y a des églises où avant la prédication, il y a ce qu'on appelle les hommes forts qui passent. Donc des gens remplis de muscles. Donc on met quelques haltères, des pièces de bois. Ils viennent faire des démonstrations de force. Ils cassent les planches. Ils font quelques exercices de musculation devant tout le monde. Après, c'est le prédicateur qui passe. Bien-aimé, tout ça pour mettre un peu de la vie. C'est faux tout ça. Ce n'est pas la vérité. C'est la Bible. Ce n'est pas la Bible. C'est la Bible qui est la vérité. Et ce sont ces petits compromis-là que Dieu veut qu'on détache, qu'on enlève de nous. On se détache de ça. Pendant le temps d'attente, pendant le temps où tu attends la délivrance, pendant le temps où tu attends la gloire de Dieu, Dieu veut que tu enlèves le compromis. Dieu veut que tu grandisses dans la foi. Dieu veut que tu grandisses dans la soumission à lui. Parce que quand la gloire de Dieu vient, les défis deviennent immenses et les combats deviennent aussi immenses. Il faut que tu sois préparé à cette gloire-là. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Pendant le temps d'attente, Dieu veut quoi? Qu'on connaisse sa vision. Quelle est la vision de Dieu? Aujourd'hui, nous ne pensons qu'à nous. Qu'est-ce qui me manque à moi? Qu'est-ce qui manque dans mon portefeuille? Qu'est-ce qui manque à mes enfants? Nous ne pensons pas à la vision de Dieu. Vous savez que dans l'espionnage, en Russie, il y a des gens qui se marient parce que leur chef espion a décidé ainsi. Toi, tu es une femme espionne, l'autre, c'est un homme espion. Bon, vous devez vous marier pour aller aux États-Unis, vivre comme si vous étiez des Américains. Et vous avez aussi des enfants pour bien vous glisser, bien vous fondre dans la masse. Vous avez aussi des enfants. Et plus tard, quand ces gens-là ont été attrapés, les gens qui suivent les infos, ils ont entendu ce scandale il y a quelques années. Des espions russes ont été attrapés aux États-Unis. Mais c'était des gens qui étaient mariés et qui avaient des enfants. Ces enfants-là ont appris par les infos que leurs parents, en réalité, ce n'étaient pas des Américains, c'était des Russes. Eux, ils ont toujours cru qu'ils étaient Américains. Leurs parents, c'était des Russes qui étaient en espionnage aux États-Unis. Vous imaginez un tel sacrifice. Donc, tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas, mais pour la cause de ton pays. Tu as même des enfants avec lui. Mais si les gens du monde sont capables de tels sacrifices pour la cause de leur pays, mais nous, et nous, il est écrit, les gens du monde sont beaucoup plus sages que les gens de la lumière. C'est écrit, c'est Jésus qui le dit. Nous, on n'est pas capable de donner notre vie pour le Seigneur. On est là à faire nos calculs que pour nous, maison, voiture, avenir professionnel, que nous. C'est pourquoi il n'y a plus d'évangélisation, c'est pourquoi il n'y a plus la gloire de Dieu. Le temps d'attente, le temps de la délivrance, c'est pour méditer quels sont les objectifs de Dieu pour nous, quels sont les objectifs de Dieu pour son Église, quels sont les objectifs de Dieu sur terre. L'objectif de Dieu est simple, Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples. Pendant que nous allons faire des disciples, nous faisons des enfants en même temps. Nous mangeons en même temps. Nous conduisons des voitures en même temps. Nous dormons dans des maisons en même temps. Mais c'est comme un mouvement. Nous allons ensemble avec tout ça. Comme ces gens-là qui travaillaient pour la Russie en tant qu'espions, mais en même temps, ils faisaient des enfants. Mais d'ailleurs, quand on a dit aux voisins plus tard, mais vous savez que votre voisin était un espion. Il y a une dame qui a dit, c'est pas possible. Il s'occupe trop bien des fleurs pour être un espion. Voilà. Donc pendant qu'il était espion, il s'occupait des hortensias, des fleurs. Son jardin était le plus beau. Donc quand on a dit à la dame, mais ton voisin c'était un espion russe. Non, c'est pas possible. Son jardin est très beau pour être un espion. Voilà. Et nous ne sommes pas capables de donner notre vie. On est là à penser à nous alors qu'il y a des humains qui donnent leur vie pour leur nation. Mais en même temps, ils s'occupent des fleurs. En même temps, ils s'occupent de sa maison. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais il veut qu'on comprenne quel est l'objectif primaire, premier. C'est de faire de toutes les nations des disciples, c'est de sauver les gens, c'est de glorifier son nom, c'est d'être la lumière du monde. Mais pendant que nous sommes la lumière du monde, pendant que nous sommes le sel de la terre, nous faisons des enfants, nous nous marions, nous mangeons. Mais comme un mouvement qui amène tout ça au ciel. Non pas quelque chose comme quelque chose de, un objectif pour nous. Non, notre objectif ce n'est pas de manger. Notre objectif ce n'est pas d'avoir des voitures. Notre objectif ce n'est pas de se marier, de faire des enfants. Notre objectif c'est servir l'Éternel. Et Dieu veut qu'on médite cela pendant le temps de la préparation. Pendant le temps où on attend la délivrance. Pendant le temps où on attend la gloire de Dieu. Méditons toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous devons attendre. Parce qu'on n'a pas encore compris. Revenons, bien-aimés, au véritable évangile, à la véritable parole de Dieu. Le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem. Vous savez, quand Jésus a été arrêté et crucifié, quand il est ressuscité, est-ce que les apôtres ont cru? Ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité. C'est les femmes qui ont cru. Mais les hommes n'ont pas cru. Alors que, bien aimé, la souffrance de Jésus a duré combien de temps? 3 jours seulement. Mais en 3 jours, toute la foi, toute la connaissance des apôtres a disparu. En 3 jours. Aujourd'hui, quand Dieu veut te préparer, tu trouves que la préparation est longue. Tu ne connais pas l'avenir, bien-aimé. Tu ne te connais pas. Seul Dieu nous connaît. En 3 jours, et la foi, et la connaissance des apôtres avaient disparu parce qu'ils étaient au courant que Jésus allait ressusciter. Jésus leur a dit ça 3 fois, à 3 reprises clairement. Je ne dis pas le dire en parabole, il l'a dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais clairement, Jésus leur a dit 3 fois que je vais mourir, je vais souffrir et je vais ressusciter. Clairement. Mais après, il a encore dit ça plusieurs fois dans des paraboles. Mais quand c'est arrivé, est-ce qu'ils ont cru? Non! Parce que il leur fallait un temps de préparation. Dieu les a oubliés pendant 3 jours seulement, bien-aimés. 3 jours seulement, l'oubli de Dieu les a amenés à ne plus croire. C'est pourquoi, quand Jésus est remonté au ciel, cette fois, il leur a dit, « Attendez à Jérusalem. » Il n'a pas dit « Priez, jeûnez ». Eux-mêmes, ils ont compris qu'il fallait prier. Mais il n'a rien donné comme instruction, « Jeûnez, priez, lisez la parole ». Non, il a dit « Attendez ». Et pendant cette attente, eux-mêmes, ils ont compris qu'ils devaient prier. Eux-mêmes, ils ont compris certainement qu'ils devaient réfléchir sur leur échec précédent. Ils ont compris, ils ont médité les objectifs du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attendait d'eux? Quand il a dit « Attendez à Jérusalem, la gloire de Dieu viendra sur vous, la puissance du Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Attendez ça à Jérusalem. » Et donc, pendant ces 10 jours d'attente, ils étaient en train de méditer sur les objectifs du Seigneur, sur leur vie, ce que ça allait devenir. Ils étaient en train de prier parce qu'ils avaient déjà subi un échec. Pendant le temps d'attente, méditons sur le Seigneur. Et finalement, pendant le temps d'attente, bien-aimés, après avoir médité sur les objectifs du Seigneur, après avoir mis les compromis de côté, après avoir grandi en foi, dans la foi, après avoir grandi dans la dépendance à Dieu, pendant le temps d'attente, occupons-nous du Seigneur. Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait en attendant alors que Dieu m'a donné 1000 prédications? Qu'est-ce que j'ai fait en attendant alors que j'ai beaucoup de chants? On me dit que je dois attendre avant de sortir de CD. Bon, j'ai fait quoi en attendant? Occupe-toi du Seigneur. Occupe-toi du Seigneur pendant le temps d'attente. Glorifie Dieu. Sers le Seigneur. Mets Dieu en priorité. Réveille-toi le matin et dis, Seigneur, tu veux que je te serve en quoi aujourd'hui? Je veux t'aimer plus. Je veux m'occuper de toi plus encore. Je veux plus encore lire la parole. Pendant le temps d'attente, occupe-toi du Seigneur. Quels sont tes intérêts, Seigneur? Je veux méditer sur tes intérêts à toi. Je veux savoir quels sont tes goûts. Occupe-toi du Seigneur pendant le temps d'attente. Oublie-toi. Concentre-toi sur le Seigneur. Reviens sur le commandement que Dieu nous a donné. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Voilà, applique ça pendant le temps d'attente. Intéresse-toi au Seigneur. Et c'est comme ça que tu vas bien clôturer le temps d'attente. Et quand la gloire de Dieu viendra, tu seras prêt. Bien-aimé, le psaume 137, c'est le psaume difficile où nous pleurons. Mais il y a un psaume qui fait suite au psaume 137. C'est le psaume de la joie. Le psaume 126. Parce que Dieu viendra par surprise. Pendant que nous attendons, il viendra par surprise. C'est ce qui est rigolo parce que on arrive à expliquer beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à savoir le temps de notre propre délivrance. Parce que Dieu vient toujours par surprise. Il vient toujours par surprise. Et nous lisons le psaume 126. Et vous savez, comme quand Dieu agit, c'est comme un rêve. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement beau. Ça ne ressemble pas à tous les forcings que le diable nous demande de faire. Le diable nous force à mettre des beaux rideaux, à mettre des choses, à mettre de l'ambiance. À chauffer la salle. Vous savez, quand vous suivez les émissions, il paraît qu'aux émissions de la télé, quand les gens applaudissent ou bien ils rigolent, il y a un monsieur qui a un panneau qui leur dit ça. Allez, on rigole. Ils rigolent. Allez, on applaudit. On applaudit. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Au moment où lui va agir, toi-même, tu vas rire. Toi-même, tu vas être dans la joie. Parce que ça sera très simple, très facile, parce que le temps est arrivé. Il n'y a pas de forcing. Il y a des gens, on leur force, on donne des conseils. Voilà comment tu dois traiter ton mari pour que... Oh, bien-aimé, quand tu auras le temps de gloire va venir, tu n'auras pas besoin. Le sourire, l'amour sera là. Vous allez vous aimer tranquillement parce que la gloire de Dieu est là. Psaume 126, comme un rêve, comme un rêve. Cantique de degrés. quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Vous voyez que Dieu est fidèle. Hein? Nous venons de lire Psaume 137. Nous sommes où? À Babylone. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Mais Seigneur, tu nous as éloignés de Sion. Mais un jour, Dieu a agi. Il les a ramenés à Sion. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Pendant le temps d'attente, j'avais oublié, nous allons s'aimer dans les prières avec larmes, mais un jour l'allégresse va venir. Pendant le temps d'attente, on va prier comme les 10 jours des apôtres. On va crier à Dieu. Nous voulons Jérusalem, nous voulons Sion, nous voulons la vérité, nous voulons la vraie parole, nous voulons le vrai amour entre enfants de Dieu. Nous voulons que les enfants de Dieu ne se soupçonnent plus, qu'ils s'aiment réellement. Nous voulons vivre les actes des apôtres. Pendant les temps d'attente, nous crierons à Dieu, toujours. Même s'il faut pleurer, s'il faut jeûner, nous allons le faire. Mais un jour, le Seigneur va se manifester. Et ça sera très beau. Bien-aimés, préférons ce temps-là du psaume 126 plutôt que le forcing de créer des faux miracles. Aujourd'hui, les gens créent des faux miracles, des faux témoignages. Ah, mais tu avais une jambe plus courte, ça s'est allongé. Des miracles difficiles à vérifier, bien-aimés. Non. Les gens disent, mais quand il m'a touché, ça m'a fait quelque chose. Et après, ça t'a fait que... Bien-aimé, quand nous aussi, on était païens, on regardait Bob Marley, ça nous faisait quelque chose. Hein. Tu trembles. Il y avait certains matchs de football, tu regardes, tu as la fièvre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a la gloire de Dieu là-bas? Ça, c'est des faux miracles. Quand Dieu va faire, bien-aimé, c'est pas toi qui vas parler. C'est le païen qui va parler. Quand Dieu a agi dans les actes des apôtres, ce n'est pas les apôtres qui disaient que nous avons guéri quelqu'un. C'est les païens qui disaient, mais ce n'est pas possible. Un mort est ressuscité. L'infirme a marché. Donc le bruit s'est répandu. Ce n'est pas les chrétiens qui parlent. Mais aujourd'hui, c'est les gens qui parlent. C'est les chrétiens qui parlent. Ils cherchent des miracles avec la torche. Et dès qu'ils en trouvent, ils parlent beaucoup. Non. Quand Dieu va agir, c'est le monde qui va parler. Les gens verront la gloire de l'Éternel. Un jour, nos larmes cesseront, bien-aimés. Mais il faut être patient dans le temps de préparation, le temps de délivrance. Il faut être honnête, sincère avec soi-même devant Dieu. Nous clôturons avec Actes des Apôtres, au chapitre 2. Les apôtres étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'attente. Pendant qu'ils étaient dans la tente, ils ont choisi un autre apôtre, Matthias. Ils ont fait ce qu'il fallait pour être complet, pour être prêt. Ils priaient. Ils étaient dans la tente. Ils s'attachaient à Dieu. Ils s'attachaient à la vision de Dieu. Et le chapitre 2 nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il est écrit tout à coup, par surprise, dont personne ne s'y attendait, bien-aimé. Tout à coup, il vint un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Bien-aimés, c'est les païens qui sont étonnés, les non-croyants en Jésus. Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous allons au verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. » Verset 29, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Voilà la parole de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur va élever Jésus dans la vie de ceux qui l'attendent. Un jour. Mais accepte de te préparer. Arrête de faire des bricolages, des compromis. Satan va te donner des idées pour arriver à tes fins, entre guillemets, rapidement. Mais tu vas tourner en rond en réalité. Ne fais pas les compromis. Si tu veux la vraie bénédiction, comme c'est écrit dans la parole, la bénédiction de Dieu enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Attends-toi à Dieu. Et si tu as fait des bricolages, bien-aimé, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Si tu as voulu forcer le destin, demande pardon à Dieu et change de position. Accepte de recommencer à zéro avec Dieu, dans la vérité. Vaut mieux commencer avec Dieu de zéro à des grandes choses, plutôt que bricoler et tourner en rond. Nous allons bénir le Seigneur parce que nous savons que tout est accompli à la croix. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur, parce que nous pouvons commencer à zéro, mais nous nous attendons à des choses glorieuses avec notre Dieu. Notre attente n'est pas vaine. Le Seigneur nous surprendra. C'est sa parole, c'est la vérité.